le forum des métiers de la cité scolaire Paul Scarron dans Microcité. Bonjour. Le 29 mars dernier, la cité scolaire Paul Scarron organisait son forum des métiers au centre culturel Maurice Thermot à Ciel-Guillaume. Plus d'une quarantaine de professionnels ont ainsi répondu à l'invitation des élèves de 3e ODP, option découverte professionnelle, afin de participer à ce forum et échanger avec le public scolaire venu des établissements du Nord Sarthe et aussi avec des demandeurs d'emploi en partenariat avec la Maison de l'Emploi Sarthe-Nord. L'occasion pour certains de ces élèves de se mettre dans la peau de journalistes et d'interviewer quelques-uns des participants afin de faire découvrir leur métier ou la filière qu'ils représentent.
Bonjour, invitée au Forum des métiers, Madame Bernard, animatrice et chargée de mission à l'ADEFA, qui va répondre aux questions de Pierre.
Alors bonjour Madame Bernard.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que l'ADEFA ?
Alors l'ADEFA c'est une association départementale pour l'emploi et la formation en agriculture. Et mon poste consiste à gérer une bourse de l'emploi de la production agricole et promouvoir les métiers de l'agriculture.
Alors quels sont les différents métiers de l'agriculture ?
Alors dans l'agriculture il y a de multiples filières de production, autant dans l'élevage que dans les cultures. Voilà.
Quelle formation faut-il suivre pour devenir agriculteur ?
Alors pour devenir agriculteur, toutes les formations sont possibles. Après, pour bénéficier des aides à l'installation, il faut avoir au minimum le bac professionnel ou un bac agricole général. Ou sinon un BTS agricole.
Est-ce difficile de s'installer ?
Non, c'est pas difficile. L'important, c'est d'être passionné du métier.
Et peut-on se reconvertir facilement après avoir été agriculteur ?
Oui, la reconversion est possible.
Donc merci Madame Bernard, animatrice et chargée de mission à l'ADEFA, d'avoir répondu à nos questions.
Et on continue toujours en direct du Forum des métiers de Ciel-Guillaume, organisé par l'option découverte professionnelle.
Bonjour Madame Fontaine, restauratrice à l'hôtel Le Bretagne à Ciel-Guillaume. Alors, que faites-vous dans ce métier en particulier ?
Alors, nous avons deux métiers, je dirais. Nous avons la partie hôtellerie et la partie restauration. Donc, il y aurait même trois métiers puisque nous avons le service, la restauration cuisinier et l'hôtellerie.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
Nous sommes installés à Sillé, ça fera 16 ans cette année.
Combien de clients peut accueillir votre structure ?
Alors, c'est assez vaste. On peut aller de au moins jusqu'à une cinquantaine.
Entretenez-vous des contacts avec d'autres professionnels ?
Oui, tout à fait. On adhère déjà à une association qui s'appelle l'Association des 19 Bonnes Tables. On est donc entre 15 et 16 professionnels. On peut aller jusqu'à 19. Et on a des contacts réguliers pour organiser soit des publicités ou se faire connaître.
Organisez-vous votre emploi du temps ou bien êtes-vous soumise à un emploi du temps fixe ?
Alors l'emploi du temps, je dirais que Alors, on a un emploi du temps régulier, mais je dirais qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. Je dirais même un quart d'heure avant un service, on ne sait pas le nombre de clients qu'on peut avoir. S'il y a des réservés, on sait qu'on a entre 10, 15, 20 ou 30 clients. Et autrement, s'il y a zéro réservé, on peut avoir 30 clients en une heure de temps.
Que donneriez-vous comme conseil à un jeune qui souhaite faire ce métier ?
Alors, aimer le contact. Je dirais être curieux au niveau de l'alimentation. Je dirais le contact, l'aimabilité, travailler avec le contact clientèle, puisqu'on est quand même confronté dans tous les domaines à la clientèle.
Est-ce que vous avez un salaire fixe ou il dépend de la clientèle ?
Non, on a un salaire fixe dans l'hôtellerie. Donc on travaille, je dirais, 39 heures et on a les heures supplémentaires qui sont réglées.
Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre métier ?
L'accueil.
L'accueil ?
Oui, je ne conçois pas mon métier sans accueil et contact clientèle.
Eh bien, au revoir Madame Fontaine, restauratrice à l'hôtel Le Bretagne, à Ciel-Guillaume.
Merci à vous.
Alexia va vous présenter le métier de directrice de crèche.
Bonjour, donc je suis avec Madame Manceau, directrice de crèche à Ciel-Guillaume. Alors, étant directrice, gardez-vous quand même beaucoup de contacts avec les enfants ?
Oui, tout à fait, bonjour. Je garde beaucoup de contacts avec les enfants dans la mesure où c'est une crèche qui accueille 18 enfants, donc une petite structure, et donc je partage mon temps entre les enfants et l'administratif, mais je suis un peu plus avec les enfants malgré tout.
D'accord. Et avant de devenir directrice, aviez-vous eu de l'expérience dans d'autres crèches ou,
Oui, avant d'être responsable de structure, donc j'ai travaillé à Paris une année en tant qu'éducatrice de jeunes enfants dans les sections, donc pas du tout en tant que responsable. Et après, j'ai effectué des remplacements, divers remplacements de responsables de structure, soit des remplacements en congé maternité ou autres, qui du coup m'ont permis d'avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir aujourd'hui être responsable à Ciel-Guillaume du multi-accueil.
D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
Alors, les avantages, bah, disons qu'il y en a beaucoup. C'est très agréable de travailler avec des jeunes enfants. Voilà, tous les jours c'est différent, tous les jours on accueille des enfants différents, et puis pouvoir aussi suivre les enfants qui viennent tous les jours du lundi au vendredi, c'est agréable. La relation avec les familles aussi, c'est un côté sympathique. Et puis le travail d'équipe, donc on travaille énormément en équipe, on est 6 personnes, et donc le travail d'équipe tient une place très importante. Les inconvénients, c'est un travail assez fatigant parce que toujours bruyant, toujours beaucoup de bruit.
Le dos aussi.
Voilà, il faut porter, il faut toujours être en mouvement, en action. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu fatigant, mais si on aime son travail, ça se passe bien.
D'accord. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres professionnels ?
On a pu être en contact avec, par exemple, des intervenants extérieurs qui venaient faire des activités d'éveil musical, par exemple. Mmh. Et puis, au sein de l'espace petite enfance, il y a les services de la PMI. Donc, ce qui permet d'avoir aussi une relation avec les psychologues,
les sages-femmes.
Les sages-femmes, voilà, si on a des questions, si on a des besoins, on n'est pas tout seul au multi-accueil.
Alors après, quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier ?
Alors, les qualités pour travailler avec les jeunes enfants, je dirais qu'avant tout, c'est la patience. Il faut vraiment être patient, savoir écouter les enfants, prendre en compte leurs besoins, et puis faire vraiment en fonction de chacun, de chaque rythme et de chaque développement, là où en sont les enfants, en fait. Voilà, je pense que la patience, c'est vraiment la qualité principale qui nous est demandée. Après, il y en a d'autres, bien sûr, la créativité, pouvoir proposer des choses tous les jours aux enfants, des choses diverses et variées, avoir un sens de l'observation important aussi pour se rendre compte si un enfant a un souci ou s'il y a quelque chose à revoir au niveau de notre fonctionnement. Voilà.
Et est-ce que cette structure est divisée en plusieurs sections, donc les petits, les
tout petits ? Non, pas du tout. Nous, en fait, on a une seule pièce de vie, ce qui implique que les enfants sont tous dans la même pièce, qu'ils aient 3 mois ou qu'ils aient 3 ans.
D'accord. Et par exemple, des enfants qui sont malades, vous les prenez pas ou...
Alors, tout dépend de ce qu'ils ont. En fait, nous, on réagit de façon... c'est pour le bien-être de l'enfant. S'il a de la fièvre et que vraiment son état nous semble pas normal, pas comme d'habitude, bien sûr, on dit aux parents qu'il serait forcément mieux à la maison qu'en collectivité. Maintenant, on prend quand même des enfants enrhumés, des enfants qui toussent, parce que voilà, sinon, il y a des jours où on n'aurait personne.
Et vous prenez les enfants à partir de quel âge ?
Alors, on prend les enfants à partir de 3 mois. Donc, il faut qu'ils aient réellement leurs 3 mois pour rentrer à la crèche.
3 mois et jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à l'anniversaire des 4 ans.
Et dernière question, en tant que directrice, avez-vous un emploi du temps fixe ? Pouvez-vous nous raconter une journée type ?
Oui. Alors oui, en tant que directrice, j'ai un emploi du temps fixe. Mmh. Alors une journée à la crèche, donc on ouvre le matin à 7h30. On est ouvert du lundi au vendredi. Donc on ouvre à 7h30 le matin. Donc c'est l'accueil des enfants jusqu'à 9h, 9h30. Après, on propose une activité. Donc pareil, une activité, c'est libre, les enfants viennent ou pas. Et puis, ensuite vient le temps du repas, vers 11h30, donc lavage des mains, repas. Et puis, ensuite, c'est le temps d'échange avant la sieste. Vers 13h, c'est l'heure de la sieste, du repos. Et puis, jusqu'à, on va dire que les enfants se réveillent tranquillement jusqu'à 15h30. Et puis après, c'est l'heure du goûter. Et puis, voilà, on propose des jeux, soit jeux libres, soit activités proposées. Et après, bah, les enfants partent tranquillement à partir de 4h30 jusqu'à 18h30.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Pour aider dans son choix d'orientation, il existe des conseillers d'orientation.
Bonjour Madame Cerici, conseillère d'orientation. Bonjour. Dans l'établissement scolaire de Paul Scarron. En quoi consiste ce métier ?
Alors déjà, je vais donner la terminologie exacte, c'est conseillère d'orientation psychologue. Alors, en quoi consiste le travail d'un conseiller ou d'une conseillère d'orientation psychologue ? Plusieurs missions, mission d'aide à l'orientation, aider le jeune à élaborer un projet d'études et un projet de métier, d'insertion dans la vie active, les encourager dans cette démarche-là. Mmh. On travaille en partenariat avec les différents intervenants de la communauté éducative au sein d'un collège ou d'un lycée. Auprès d'une population, notre public, c'est de la 6e à la terminale et au-delà, puisqu'on s'occupe aussi des étudiants à l'université ou en BTS, etc. Et également des adultes demandeurs d'emploi ou désireux de changer leur projet professionnel. On parle maintenant d'orientation tout au long de sa vie. Voilà.
Quels sont les avantages et les contraintes de ce métier ?
Compliqué de répondre en deux secondes à cette question. Les avantages, c'est que c'est très diversifié. Mmh. Au niveau du public, au niveau des tâches, je ne fais jamais la même chose, même au sein d'une même journée. Ce matin, j'étais en réunion au Mans, bon, avec des collègues COP, conseiller d'orientation psychologue. Et demain, je suis par exemple à la cité scolaire, là, à Sillé. Je vais voir des collégiens, je vais voir des lycéens, je vais avoir des réunions avec les profs principaux par rapport à l'orientation, aux procédures. Je vais rencontrer l'assistante sociale, l'infirmière par rapport à des orientations en structure spécialisée. Quand je suis en CIO, c'est l'endroit où je travaille, à Sablé, centre d'information et d'orientation. Mmh. C'est également très varié, public, scolaire, accompagné ou pas de parents. Les plus jeunes, plus âgés, adultes, etc., sur rendez-vous ou en consultation libre. C'est très varié. Les inconvénients, j'en sors là où je suis en plein dedans. Ce sont les conseils de classe, les soirées un petit peu longues le soir.
Ouais. Hein.
L'inconvénient, c'est aussi le secteur qui dépend du CIO de Sablé auquel nous sommes rattachés. C'est un petit peu loin, c'est à 50 km. Il y a pire que Sillé, hein. Au niveau de l'éloignement, il y a Beaumont, il y a Fresnay. Donc c'est un secteur où on ne peut pas se déplacer tous les jours, à la différence des collèges et établissements qui sont sur Sablé. Voilà. Il y a 5 CIO dans la Sarthe, 5 centres d'information et d'orientation, 3 ruraux à la Ferté-Bernard, à Sablé, à La Flèche, et 2 CIO Le Mans Centre et Le Mans Sud pour Le Mans.
Que faut-il faire pour pouvoir être conseillère d'orientation ?
Psychologue.
Il
faut avoir une licence de psycho. Non, mais je le dis parce qu'il faut avoir obligatoirement une licence de psychologie pour passer le concours. Et ensuite, un concours. Si on réussit le concours, on a 2 années de formation en institut.
Mm-hmm.
Voilà. Donc 5 ans d'études après bac, si tout va bien.
Ouais. Quels sont les débouchés ?
Conseiller d'orientation psychologue, nous ne sommes que 4000 en France. C'est une poignée hein, par rapport à beaucoup d'autres métiers. Et si vous suivez l'actualité, l'embauche ne se profile pas.
Oui.
Hein. Au contraire, il y a des coupes sombres qui se font sur les fonctionnaires. Donc tous les gens qui partent à la retraite ne sont pas forcément remplacés. Hein.
Mmh.
On est en ce moment un COP pour 1400 élèves en gros. Hein. Avec un secteur à 60% d'établissements scolaires. Moi, j'ai la cité scolaire et un gros collège sur Sablé. Et le reste du temps, c'est au centre d'information et d'orientation. Voilà.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
gros blanc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai vraiment choisi, je crois que c'était une opportunité. J'avais fait psycho, j'étais même allée voir pour l'anecdote à l'époque un conseiller d'orientation au CIDJ à Paris, Centre d'information et documentation jeunesse. Mm-hmm. Et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire avec ma licence de psycho? Et il me dit, bah, pourquoi vous ne faites pas comme moi? C'est-à-dire, bah, conseiller d'orientation. Je lui dis, quelle horreur. Et quelques années plus tard, j'y étais. Mais ceci dit, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'ai fait plein d'autres boulots avant.
Donc, que conseillerez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier?
D'avoir des qualités d'écoute, d'avoir des connaissances aussi en économie. Mmh. D'être curieux de beaucoup de choses et surtout de s'intéresser à la personne, à l'humain, on va dire. À l'humain, c'est-à-dire le valoriser, lui donner les chances de se donner un projet de vie qui soit intéressant.
Donc merci de avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous étiez donc Madame Cerisi, conseillère d'orientation dans... psychologue.
Très bien.
Dans l'établissement scolaire de Paul Scarron.
Madame voilà. Cerisi.
Cerisi, oui.
Voilà. Merci.
Merci. Bonjour, Sophie reçoit Monsieur Aouni, journaliste.
Alors bonjour Monsieur Aouni.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef aux Alpes-Mancelles, Ibériques. Alors quelles sont les tâches que vous devez exercer?
D'abord, je suis journaliste de métier, donc j'écris, mais je contrôle aussi tout le travail des correspondants et aussi de tout ce qui est sujet qui vient de l'extérieur. Donc c'est le travail du rédacteur en chef.
Et la photographie aussi?
Je fais de la photo, je fais de la mise en page, c'est un travail complet.
Où peut-on exercer le métier de journaliste?
On peut l'exercer à la presse écrite, on peut l'exercer à la radio, on peut l'exercer à la télé, maintenant sur Internet. Le champ d'intervention est assez vaste.
Quels sont les avantages ou les inconvénients de ce métier?
Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de poser cette question-là. Personnellement, je n'y trouve que des avantages. Être journaliste aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, et sans doute comme demain, ça nous donne tellement de pouvoir, ça nous ouvre tellement de portes. À côté, tous les petits inconvénients ne comptent pas. Alors les inconvénients, en règle générale, ce sont les horaires. On démarre la matinée vers 9h, mais on ne sait pas vers quelle heure on va terminer. Mais on le sait, c'est notre métier, c'est notre passion. On peut terminer à 18h, 19h, rentrer à la maison, et puis un coup de téléphone après, il y a un accident grave. On prend l'appareil photo, et puis on retourne au travail. On le sait, on s'est engagé à le faire et c'est pas du tout un handicap, c'est pas du tout contraignant à mes yeux. Quoi. On le sait, c'est comme les sapeurs-pompiers, ils s'engagent à être sapeurs-pompiers, ils peuvent être dérangés à 2h du matin, ils prennent leur voiture et puis ils roulent pour sauver des vies. C'est incontrôlable. L'information, on ne la contrôle pas. Elle ne s'arrête jamais. Bon, évidemment, on a des horaires. D'une journée classique relativement convenable, mais on peut très bien terminer à 22h tous les soirs. Quoi.
Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer le métier?
Évidemment, il faut être bon en français. Ça, c'est le minimum. Avoir le sens de l'information, ce n'est pas tout d'écrire, mais d'expliquer, être à la portée de tous. Aimer les gens, aimer sa région, donner un sens à l'écriture. C'est ça qui est intéressant dans notre métier.
Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent pratiquer le métier?
Énormément. Là, depuis cet après-midi, je n'ai pas arrêté. Il y a eu un défilé à mon stand. C'est un métier justement qui fait rêver. Ça ouvre tellement de portes que ça ne peut qu'intéresser les jeunes qui sont assoiffés de justice, de liberté. C'est un métier où on s'éclate aussi. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que lorsqu'on fait un bon papier, une belle photo, etc., puis après on rencontre des gens à l'extérieur qui sont contents du travail qui a été fait. C'est super pour les journalistes. Je ne changerais pour rien au monde mon métier, quoi. Même si on me donnait demain un salaire qui triplait, ça ne m'intéresserait pas. C'est vraiment un métier passion, quoi, et passionnant.
Combien combien d'années d'études faut-il et dans quelle école?
Bah, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, on peut très bien, après le bac, faire une école de journalisme de 2 ans, mais sortir avec un petit diplôme ou qui n'est pas reconnu par tout le monde. Mais on peut suivre aussi des études plus poussées à Lille, à Rennes, à Bordeaux, à Paris, et ça prendra un peu plus de temps. Bah, il faut viser l'excellence, et puis si ça ne va pas, revoir son ambition à la baisse. C'est pas en termes d'années. Il y a eu même dans le temps des journalistes qui sont devenus sans le moins diplôme parce qu'ils avaient tellement le sens de la formation, tellement le sens de l'écriture et du contact, et qui sont devenus de super rédacteurs en chef sans le moins de diplôme. On peut encore le faire aujourd'hui, c'est pas du tout impossible. Et on voit aujourd'hui, notamment à la télévision, des ex-footballeurs ou gymnastes qui deviennent journalistes et qui commentent et qui font très 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 bien leur travail. C'est même étonnant. Ils connaissent leur domaine, quoi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, preuve à l'appui, tous les journalistes sont pas des idiots. Et c'est vrai que lorsqu'on entend certains commenter à la télévision, ils n'ont rien à envier à ceux qui ont fait des études et puis qui ne sont pas à la hauteur. Jean-Michel Larqué, quand il commente un match de foot à la télévision, c'est un régal de l'écouter. Arsène Wenger, c'est pareil quand il fait un commentaire. Il n'y a pas la moindre hésitation, c'est clair, c'est net, c'est respectueux. Je dis chapeau, quoi. Et il faudrait qu'on sorte un petit peu de cette vision un petit peu qu'on a ici. Aux États-Unis, ils disent pas qu'est-ce que tu as eu comme diplôme, ils disent combien tu pèses, quoi. Voilà ce que tu vaux, c'est pas forcément le diplôme qui fait le bonhomme, quoi.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier?
Personnellement, je l'ai pas choisi. Moi, j'ai fait des études de droit et puis un jour, on cherchait un correspondant sportif. J'ai essayé, ça m'a plu. Par la suite, j'ai écrit dans le domaine culturel, associatif. Et puis, je suis devenu journaliste comme ça, quoi, sur le terrain, mais je n'ai jamais terminé. C'est pas parce qu'on devient journaliste que c'est fini. Les formations, on en a 3-4 par an pour mieux écrire, pour mieux suivre les nouvelles techniques, pour écrire pour Internet. Enfin bon, ça n'est jamais terminé, quoi. On se remet en question assez régulièrement.
Quelles sont les possibilités de carrière?
Comme je viens de dire, on peut démarrer par la correspondance. Il suffit pour ça d'être majeur, évidemment, de savoir écrire, puis prendre des photos, avoir le sens de la formation. Par la suite, on devient journaliste. Après, après secrétaire général de rédaction, rédacteur en chef adjoint, et puis rédacteur en chef, c'est le plus haut niveau dans notre domaine.
Donc, c'est ce que vous faites?
Ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Je ne peux pas aller plus haut maintenant. Je suis un peu coincé, mais je ne suis pas mécontent quand même.
Est-ce un métier qui recrute?
Il y a de la place, mais évidemment, ce sont toujours les meilleurs qui sont pris.
Ouais.
Les meilleurs sont ceux qui sont les plus motivés. Et tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune fille. En parlant, je lui dis quelles sont tes qualités. Elle me dit je suis curieuse. Je lui dis si demain j'ai à t'embaucher, je t'embaucherai, quoi. Et voilà une jeune fille qui est haute comme 3 pommes. Elle a déjà tout compris. Elle m'a dit je suis curieuse et j'ai envie de savoir tout avant tout le monde. Donc moi je lui dis écoute, si demain j'ai à recruter un journaliste, il me dit ça tout de suite, il est clair que je ne lâcherai pas, quoi.
Merci Monsieur Aouni d'avoir répondu à mes questions. Donc je répète, vous êtes rédacteur en chef aux Alpes-Mancelles Libérées. Merci et bonne journée.
Merci à vous.
Pour la première fois au Forum des métiers, nous avons les compagnons de devoir. Pierre est avec un de ses représentants.
Alors bonjour Maxime Tribault, prévôt des compagnons du devoir. Quel est votre rôle?
Bonjour, alors moi je suis prévôt des compagnons du devoir sur nos villes du Mans et de Laval. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai la responsabilité administrative, comptable et juridique des maisons de compagnons du devoir.
Alors, combien les compagnons du devoir représentent de métiers différents?
Actuellement, nous sommes présents dans 27 métiers et sommes centres de formation dans 21 métiers, notamment dans les métiers de l'industrie, du bâtiment, des matériaux souples et 2 métiers de bouche.
Donc, à partir de quel âge on peut accéder aux compagnons du devoir ?
Alors, il y a plusieurs façons d'intégrer les compagnons du devoir. La façon la plus classique et la plus connue, on va dire, c'est un apprentissage traditionnel, c'est-à-dire en alternance, sortie de troisième. Mais on peut également intégrer les compagnons du devoir après une formation professionnelle, pardon, c'est-à-dire après avoir validé, passé un premier diplôme professionnel dans un autre centre de formation. Et on peut aussi intégrer les compagnons du devoir sortis de lycée ou en décrochant de l'université. Donc on a trois profils de recrutement.
Quels sont les débouchés pour quelqu'un qui sort des compagnons du devoir ?
Alors aujourd'hui, il y a un chiffre qu'on aime bien, nous, c'est que 94% des personnes formées chez les compagnons du devoir ont un emploi jusqu'à 10 ans après leur formation. On a aussi 77% des personnes formées chez les compagnons du devoir qui intègrent des postes à responsabilité ou deviennent chefs d'entreprise.
Et vous, quelle formation avez-vous suivi ?
Alors moi j'ai un cursus un peu particulier, donc je suis allé en terminale, j'ai mon bac S et ensuite je suis parti en école de communication à New York et cette école-là ben, m'a pas plu parce que c'était un choix que mes parents m'avaient imposé et donc j'ai décidé de rentrer en France et j'ai choisi quelque chose qui allait les embêter au plus haut point, donc une formation professionnelle. Je suis donc rentré chez les Compagnons du Devoir en 2004 et aujourd'hui, quelques années après, je suis un des responsables des maisons de Compagnons du Devoir. Donc on est 56 en France à avoir mon poste.
Sinon, y a-t-il autant de garçons que de filles dans les compagnons ?
Alors les filles dans le compagnonnage, c'est assez récent en fait. C'est depuis 2005. Donc depuis 2005, on a accueilli les filles, les jeunes femmes dans le compagnonnage et ça dépend complètement des métiers en fait. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où les jeunes femmes sont majoritaires. Je pense notamment au métier de maroquinier, au métier de tapissier, au métier de peintre. Et il y a des métiers où, effectivement, il y a peu de filles. C'est vrai qu'il y a peu de filles qui font le choix du métier de maçon, par exemple.
Alors, merci Maxime Prévost des Compagnons du Devoir d'avoir répondu à nos questions.
Merci à toi, Pierre, de m'avoir accueilli.
Le Forum des métiers de la Cité scolaire Paul Escaron dans Microcité, des interviews réalisées par Alexia, Steven, Sophie, Laura, Maxime et Pierre.